Les massues, il faut pacifier, elles pèsent pas moins de 500 grammes chacune. Et but!
Et troisième but
d'Emmanuel Petit qui marque à la dernière minute.
Oh là là, oh là là, chute de Mélodie, juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain.
Ça y est, Shepard qui est parti! L'Express, le TGV est parti, Shepard! 938, record du monde!
Pédalage et défonçage sans les mamelles du Tour de France, alors il se défonce car la ligne est encore loin.
Bonjour, il est 12h15 en ce mardi 23 novembre. Vous êtes bien au Café des Sports sur Principe Actif. Bonjour, l'organe vocal.
Présent, bonjour.
Bonjour, Raoul.
Mes respects.
Bernardo.
Salut, Brandon.
Et Gonzalo.
Salut.
Nous attendons le renfort du dernier. Vous retrouverez comme toutes les semaines des résultats locaux, la page rugby, du basket, l'abécédaire de Bernardo, le billet d'humeur du sœur Raoul et la chronique football en dernière partie, les coups de cœur, les coups de gueule, le tout en musique par Gonzalo. Bah c'est bon, un morceau qui a la patate comme ça pour commencer. Je sais pas vous.
Mais c'était les Beastie Boys.
Ouais.
Non, parce que tu dis un morceau précis.
Ah, ben voilà, les Beastie Boys. Juste pour...
Fight for your right.
Voilà, bon complément. Juste pour savoir, est-ce qu'il y en a qui ont été voir du sport ce week-end?
Moi, j'en ai pas vu.
D'accord.
Derrière mon petit écran.
Moi, je suis allé à la salle Jean Fourré.
Ah,
et
la salle était comment?
Moi, je suis fait fourré à la salle.
Et je voudrais saluer les supporters du Portel qui ont mis le feu juste à la fin de leur victoire. Ils sont restés pendant 10 minutes, un quart d'heure à chanter et tout.
Ils étaient quoi avec, encore avec la fanfare et tout?
Tout à fait.
Comme s'ils préparaient les fêtes dans le Nord et ils avaient des harengs à jeter sur le terrain ou pas?
Ils ont rien jeté, eux. Ce qui n'a pas été le cas de tout le public d'ailleurs.
Ouh,
première victoire à l'extérieur pour le Portel.
Pourquoi première? Pourquoi il y a un tunnel à la salle maintenant?
Bah, à cause de ça.
Donc c'est pas une première.
CF l'année dernière.
C'est pas une première.
Voilà. Allez. Et vous, monsieur Gonzalo, vous avez été voir du sport?
Ouais. Bah, maman, j'ai froid. Vous connaissez tous l'histoire du pingouin qui s'interroge sur sa condition d'oiseau de la famille des Alcidés sur la banquise. Bah, j'ai eu le même sentiment, moi, dimanche dernier au Premier Margot. Et pourtant, croyez-moi, j'aime bien ce rendez-vous dominical. Le rituel est immuable. Aux alentours de 15h, j'arrive l'esprit serein. Je me dis, de toute façon, ça va pas commencer à l'heure, puisque normalement, un match de compétition officielle doit commencer à l'heure. Mais au rugby, c'est autre chose. Hein. On est dans le Nord et on choisit nos horaires. Hein, ça. Donc, j'ai tout le temps de prendre un café, de serrer quelques mains. Monsieur le Président, mes hommages. Rasput, comment vas-tu? S'en va. Quelques mètres plus loin, il y a le grand con, à l'accent corésien, qui me casse l'épaule avec une tape amicale. Salut Doumé, bonjour monsieur, Mazin, Pierre Tombal, Nono Lerati. Ouais, voilà, c'est familial, quoi. C'est familial. Bah, dimanche dernier, passé la demi-heure, honnêtement, j'ai eu froid. Pourtant, j'avais enfilé les chaussettes de combat, les chaussures qui vont bien. Et avec la guinche, bah, fatalement, on a ressorti notre projet récurrent. Hein. En gros, c'est une sorte de fantasme de rugby qui revient toujours là, cette période-là. Notre fantasme de rugby, bah, ça serait un championnat de la mi-novembre à la mi-février. Pardon. Qu'est-ce que je raconte? Ce serait un championnat de la mi-mars, la mi-mars à la mi-octobre. En gros. On commence mi-mars jusqu'à... On
s'arrête. Faut quand même une trêve pour les fêtes.
Ah, attends, on s'arrête le 15 juillet. Voilà, là c'est une phase de poule, un aller-retour. Après, il y a un mois de vacances qui s'arrêterait pile poil après la dernière soirée des fêtes à Dax. Comme ça,
ah,
ça...
parfait. Ça me va.
C'est pour la préparation foncière.
Je signe.
Donc sur la deuxième partie, barrage d'accession ou barrage de maintien. Hein.
Pourquoi tu parles pas de barrage de descente au rugby? Ça serait approprié, non?
Non, bah, au maintien, enfin, ça... Ah, pardon,
bien vu. T'es pas frais.
Il nous manque toujours la webcam.
Et donc, moi, parce que franchement, le rugby au soleil, eh ben, ça a quand même une autre gueule. Hein. Et je suis sûr qu'on trouverait du King of the Barbecue pour faire fumer le pré et du tireur de bière pour arroser Margot.
Non, bah, en attendant, on a du King of Vin Chaud.
Ouais. Bon, enfin, tu crois que c'est possible, ça?
Impossible.
Bon, bah,
change d'hémisphère.
À croire que le rugbyman nordiste s'épanouit dans l'humide, soigne sa peau dans la boue et enfin bref, faut aimer quoi. C'est comme un peu l'histoire du pingouin quoi. Bon, allez, on passe. Je vous ai pas fait marrer sur mon histoire de pingouin, tant pis. Basket. Il fallait bien que cela arrivât. Je vous prie de faire
un
subjonctif. Bon, bah, la semaine passée, cette même chronique, j'affirmais que la LM devait donner un nouveau coup de booster. Bah, comme challenger, la navette amicaliste a explosé contre le Portel, 70-72. La faute à une adresse insigne, paraît-il, une agressivité moindre pour ceux qui étaient.
Tout à fait.
Non, c'est ça. Et comme on l'avait dit précédemment, ici, la formation hébroïcienne a perdu gros avec le départ de Sambou Traoré, le joker médical. C'est mon avis. Un grand blanc, d'accord.
Je partage.
Malgré tout,
pas forcément un grand blanc, mais bon, j'ai pas vu le même joueur.
On n'a dit pas de racisme ici. Malgré tout, l'ALM reste première de la classe.
En tout cas, ça confirme pas la théorie de Ben Toffin qui disait qu'il fallait des grands tout mous sans cerveau au milieu de la raquette. Parce que là, ça y est, ils sont là et ça marche plus.
Volleyball, bobo à la tête et ailleurs. Les volleyeuses hébroïciennes ont pris une tannée à Mulhouse. Il n'y a rien déshonorant d'ailleurs à perdre chez le leader. Mais il y a l'art et la manière qui comptent. Et ce 25-9 restera dans les annales, mais aussi dans le fondement du coach. qui n'est pas loin de déclencher une balise argos du style SOS, pas loin d'avoir une équipe portée disparue. Un truc un peu comme ça, quoi. Donc le VB descend à la 8e place. Attention, les 3 prochains matchs seront décisifs parce que là, c'est plus l'Europe qui se joue, mais c'est le maintien. Pas de commentaires non plus? D'accord.
Bah, je pense que ça se passe de commentaires.
Alors, hand, comme les volleyeuses, bah, les handballeurs du SMV sont inclinés à Mulhouse, mais eux avec la manière, parce qu'ils ont perdu 31-29. Rue de bataille, hein, parce que Mulhouse était classé 3e, ils les ont inquiétés jusqu'au bout. Bon, pour un accident, je le maintiens chaque semaine, mais les collègues du bord de Seine sont quand même 5e. Alors par contre, derrière, il y a un petit groupetto de 3 équipes qui pousse à 2 points derrière, et là aussi, il faudra faire attention.
Attends, c'est là que je te coupe pour dire que Saint-Sébastien de Morsan a gagné le derby contre
réserve du SMV.
Contre la réserve du SMV, voilà.
Alors, football. Enfin bon, il n'y avait pas de foot, hein. Enfin, pour le FC 27, puisque c'était la Coupe de France et que nos footballistes ivoiriens ont préféré se concentrer sur le championnat et se retirer de cette compétition mineure il y a plusieurs semaines déjà. Hein. Qu'est-ce que t'en penses
Demianski.
Non, il pense pas. Bon, un tour plus loin, Passy lâche la partie également. Les Passéens ont été éliminés par Boulogne, 2-0. Bon, Boulogne quand même qui avait fait un aller-retour la saison passée en Ligue 1. 2-0 contre une équipe pareille, c'est pas déshonorant. Et on rappellera pas que le FC 27 elle, a été éliminé par une équipe de région. Hein. Ça, on le rappelle pas.
Côte-Bec, ouais, les 6 tours quand même de passer. C'est pas non plus un scandale.
Sinon, sachant que le tour d'avant, ils avaient battu les Portugais d'Evreux.
Ouais, et... Sinon, c'est pas écrit sur la chronique, mais je voulais...
ça, c'est pas grave, ça empêche pas de mobiliser les colonnes des journaux pour annoncer la victoire de l'EFC en Coupe Gambardella, parce que tu parlais de résultats mineurs contre Passy.
Il passe au tour national, voilà. Il y avait d'ailleurs beaucoup de monde dans les tribunes de Passy au stade Roger Rochard.
Enfin, pour terminer, il y avait une interview ce matin que j'ai trouvée hallucinante dans le coin-coin régional et pas local, avec le départ de Sofiane Bézou. J'ai lu son j'ai lu son interview, elle est quand même hallucinante. Donc à la question, mais ça t'embête pas de laisser tes copains au milieu du game?
Allez, laisse-moi faire un résumé, je l'ai pas lu. À jamais dans mon cœur.
Ouais, c'est ça. À jamais dans mon cœur.
Fauderge.
Et puis non, mais c'était juste l'entraîneur qui voulait pas me laisser partir. Le président, lui, a compris que mon intérêt était d'aller à Fréjus. Voilà, j'ai trouvé ça hallucinant. Mais ça, c'est sans doute le football. Mais
le président aurait pas plutôt envie de dégraisser son budget par hasard?
C'est possible.
Possibilité.
Voici pour le local.
Eh ben, monsieur Gonzalo, nous vous remercions de ce bref tour d'horizon du sport.
Mais l'obligité, c'est mieux.
Et local. Ça restera toujours mieux quand même, c'est plus agréable. Et ben allez, on enchaîne avec quoi, monsieur ?
Pavement.
We'll be right back.
Et ben voilà, c'était
Pavement.
On va enchaîner avec l'ami Bernardo et son abécédaire hebdomadaire. Je crois qu'après le I,
après le H, nous sommes arrivés au I.
Ah, j'étais un peu trop vite. Et ben voilà.
Allez, on commence avec Goran Ivanisevic, né le 13 septembre 71, joueur de tennis gaucher croate de 1m93. Beau gabarit quand même, non? Donc sa carrière pro a évolué de 88 à 2004. Son premier exploit a lieu en 90, où il élimine Boris Becker à Roland-Garros au premier tour. Cette année-là, il finira en quart de finale. Becker prend sa revanche un mois après à Wimbledon. Ivanisevic devient rapidement connu pour son style offensif et particulièrement son service dévastateur. Il fait partie des 5 joueurs à avoir servi plus de 1000 aces en une saison, avec Sampras, Karlovic, Isner et Roddick. Et d'ailleurs, en 1996, c'est lui qui détient le record du plus grand nombre d'aces, avec 1477, dont en 2001, il sert 213 aces pendant le tournoi de Wimbledon. En 92, il perd sa première finale contre Agassi à Wimbledon, toujours. Tous les deux voulaient leur premier grand titre du Grand Chelem, et donc c'est Agassi qui le remporte. La même année, il est porte-drapeau de la Croatie à Barcelone, et il obtient 2 médailles de bronze. Il perd contre Rosset en demi-finale. Il devient de plus en plus régulier, il atteint son meilleur classement le 2 juin 94, où il finit numéro 2 mondial, à l'issue d'une finale perdue contre Sampras, toujours à Wimbledon. Il perd encore une fois en 95 et en 98 à Wimbledon. C'est un peu son tournoi fétiche, on va dire. En 99-2001, il est blessé à l'épaule, donc il a une grande descente dans le classement, c'est-à-dire qu'il termine 125e mondial en 2001, et ce qui est insuffisant pour rentrer directement dans le tableau de Wimbledon. Donc il sollicite une invitation qui lui est accordée au titre de triple finaliste. Donc cette année-là, il élimine Roddick, Rudzewski, Safin et Tinenman en demi-finale sur un match qui dure 3 jours à cause des arrêts dus à la pluie.
Quand même un beau palmarès quand on connaît un peu le tennis, ça fait épingler quand même un sacré nombre de joueurs qui ont été des bonnes têtes de série.
Voilà, donc il rejoue sa 4e finale qui est la première jouée un lundi à Wimbledon depuis 1922. Contre Rafter, qui passe à 2 points du match. Et finalement, Ivanisevic l'emporte en 5-7, en remportant 9-7 au dernier set. Ainsi, il devient le joueur le plus mal classé et le premier bénéficiaire d'une invitation à remporter le tournoi londonien.
Je crois que quand il est revenu à Zagreb, ça avait été quelque chose. Hein. Il y avait la foule qui était dans le centre-ville, il avait été porté en triomphe. C'était une manifestation énorme à Zagreb.
Je crois que c'est toujours quelque chose d'énorme à Zagreb. De toute façon, quand il y a des bons résultats sportifs, il y a quand même une grosse émulation autour du sport dans cette ville.
Et lui, il était toujours assez attaché aux couleurs de son pays aussi. Bon, et bien après, il est son épaule le refait souffrir et il tente un comeback en 2004, mais pareil, à Wimbledon, il perd au 3e tour et là, il décide de se retirer. Il est à son palmarès, on peut aussi compter une Coupe Davis obtenue en 2005. En fait, il a obtenu ça sans jouer. C'est l'équipe qui avait souhaité l'associer, comme il avait toujours porté les couleurs de son pays, l'associer à cette victoire potentielle. Donc voilà, c'est tout pour Goran Ivanisevic.
C'est comme si la France gagnait l'Euro, le prochain Euro en foot, on filerait ça à Nelka aussi, c'est ça, non?
Par exemple.
C'est pas un parallèle très glorieux pour Ivanisevic quand même.
Il a gagné quelque chose, lui. Ouais. On va enchaîner avec une ville. Moi, je pensais à Ankerville.
J'ai pas pensé.
Islamabad. Il y avait Igoville aussi, mais...
Je suis désolé.
Je pense que ça va être peut-être plus glorieux.
Allez, on va partir à Imola. Ville italienne qui est particulièrement connue pour accueillir le Grand Prix de Saint-Marin sur le circuit Dino et Enzo Ferrari. Donc ce Grand Prix se déroule ici parce que la République de Saint-Marin est trop petite pour accueillir un Grand Prix. La première course de F1 a lieu à Imola en avril 63, mais elle ne comptait pas dans les championnats du monde. En 1980, c'est le Grand Prix d'Italie qui se déroule à Imola, et parce que Monza était désuet et tombé en disgrâce. En 1981, Imola accueille le premier Grand Prix de Saint-Marin.
qui est remporté par Nelson Piquet, pour la petite histoire, comme ça. Jusqu'en 1993, on peut compter 3 victoires de Prost et 3 victoires de Senna. Je vais vous parler plus particulièrement de l'édition 1994. Donc, dès les essais libres du vendredi, il y a des petits accrochages, dont Barrichello qui heurte les grilles à 290 km/h. Il s'en sort avec un nez cassé. C'est pas trop mal. Le samedi, pendant les qualifications, l'Autrichien Ratzenberger perd son aile avant, son aileron avant, pardon, et s'encastre dans un mur en tirant tout droit dans la courbe Villeneuve. Et là, les médecins ne prononcent son décès qu'à son arrivée à l'hôpital. Et non sur la piste, ce qui a permis le maintien de la course du lendemain, ce qui n'est pas sans vaines conséquences.
C'est pas glorieux non plus, quoi.
Tout à fait. Là, c'est donc parce que le 1er mai 1900...
Non, mais je crois que Kevin s'est signé quand il a entendu le nom d'Imola. Il y a une vraie religion pour le sport automobile en Italie. Il n'était pas question d'annuler cette compète, je pense.
Je crois que l'industrie automobile est beaucoup plus florissante et importante aux yeux de beaucoup de gens qu'elle ne peut l'être en France. C'est un peu comparable à l'Angleterre avec des marques prestigieuses comme Aston Martin qui ont su rester très vivantes. Et nous, on avait une marque grandissime qui était Bugatti qui a complètement disparu du circuit.
Bentley aussi
et bien d'autres.
Jaguar.
Donc le 1er mai 1994, le Grand Prix de San Marin a bien lieu. Dès le départ, il y a un accident. La course est neutralisée pendant 5 tours. Et au bout des 5 tours, la voiture de sécurité s'écarte. Et après un seul tour à pleine vitesse, Ayrton Senna perd le contrôle de sa monoplace dans la courbe de Tamburello. Et il percute le mur à 210 km/h à 14h18. Sa mort cérébrale est déclarée dès son arrivée à l'hôpital, mais l'annonce officielle de son décès n'a lieu qu'à 18h30. Pour la petite histoire, dans sa monoplace, il y avait un drapeau autrichien. Il avait prévu de rendre hommage à Ratzenberger s'il gagnait le Grand Prix.
Mais il a rendu hommage, malheureusement. Mais...
Ouais,
voilà. Le Grand Prix existe toujours pour continuer, mais la courbe a été modifiée. C'était une des courbes les plus rapides du circuit de la F1.
L'année d'après, il y a eu des grands changements pour sur ce circuit et dans tous les autres circuits. Par contre, le Grand Prix n'existe plus depuis 2006 parce que le circuit est tombé, les infrastructures ne peuvent plus accueillir de Grand Prix et le Grand Prix de Saint-Marin a disparu et n'est plus retenu pour le championnat du monde depuis 2007.
Je crois qu'ils avaient fait une chicane, ils l'appelaient la chicane de Saint-Sébastien, parce qu'ils l'avaient modifiée de la même façon que dans notre ville périphérique.
Et c'était un des virages mythiques de la F1, comme peut l'être la ligne droite des Hunaudière pour les 24 heures du Mans.
Donc Senna est d'ailleurs le dernier pilote décédé dans cette discipline. Donc bon, ça...
Pourvu que ça dure.
Tout à fait. Voilà, c'est tout pour Imola. On va passer à...
Ça permettra d'entretenir les siestes dominicales de l'ami Gonzalo, alors. Si ça dure, ce soir.
Deux heures. Voilà. Sur le sujet, deux. Voilà.
On va passer à l'Inter de Milan. Le football... Football Club Internationale de Milano.
On n'a jamais vu d'agent policier sur la route, par contre, pour arrêter une Formule 1. Stop, monsieur, papier, contrôle d'identité.
Donc l'Inter de Milan, fondé le 9 mars 1908 par 43 dissidents du Milan AC. En fait, ils ont choisi ce nom pour symboliser la volonté de ces dissidents de pouvoir permettre à des joueurs étrangers de porter le maillot de l'équipe.
Eh ben ils ont vachement bien réussi parce que t'as plus un seul Italien depuis trois saisons dans le club.
Voilà, le seul qu'il y avait, il est parti en courant parce qu'il se faisait insulter. Il était Materazzi. Là avec les Balotelli.
Il reste Materazzi.
Ouais, mais il joue peu. Hein. Et il y avait Balotelli qui était le joueur le plus talentueux, mais le seul problème c'est qu'il est noir et que le pauvre, on l'a expédié à Manchester City.
Mais je croyais que c'était international par rapport à une chanson bien connue chante Kevin le jeudi pendant les manifs.
Ça, je vais. Ouais, il y a un peu de ça aussi. D'ailleurs, pendant l'entre-deux-guerres, Mussolini exige du club qu'il change de nom parce qu'il trouvait que son nom était trop connoté à connotation communiste. Donc il s'appellera Lambrosiana jusqu'en 1942, avant de retrouver son nom d'Inter. Pardon. C'est l'unique club à n'avoir jamais connu de saison en division inférieure à la Serie A.
Donc ils n'ont pas triché.
C'est ça.
Ils ont jamais triché.
Alors, ils se sont jamais fait gauler.
Et ouais. Ils ont jamais eu un dépôt de bilan.
Voilà. Ils ont une période qu'on appelle la Grande Inter entre 53 et 66 où ils remportent le Scudetto en 53, 54, 63, 65, 66. Ce qui nous en fait 5. Et ils remportent deux fois la Coupe des clubs champions en 64, 65. Cette période dorée s'arrête en 1967 avec une finale perdue en Coupe des clubs champions. Après, ça se calme un petit peu. Il faut attendre. Ils remportent le Scudetto en 71 et après, il faudra attendre 89 pour un nouveau titre. Dans les années 90, ils remportent trois fois la Coupe UEFA, mais toujours pas de Scudetto qui est dominé par la Juventus. Et d'ailleurs, on arrive à l'année 2006.
Et pourquoi?
Pourquoi est-ce que
pourquoi
c'était
y a plus la Juve à ce moment-là?
Eh bien, parce que c'était les matchs truqués avec les arbitres et tout ça, ce qui entraîne donc la redescente en série B de la Juve. Il y a Milan AC, la Lazio de Rome et la Fiorentina qui se prennent des points de pénalité.
La vieille dame.
Et on remarque quand même que c'est pas parce que le président italien est propriétaire du Milan AC, donc Milan AC qui a été convaincu de tricherie également. Mais eux, ils n'ont pas été rétrogradés.
Ouais.
Il y a juste la Juve, les méchants.
Donc, il faudra attendre donc 2006, pardon, l'année où il y a eu le scandale.
Ah, t'as de la rillette,
ça y est, ça arrive. L'année des scandales pour remporter leur 14e Scudetto. Et ensuite, là, ils ont une belle série parce qu'ils l'ont remporté en 2007, 2008, 2009, 2010. Et en 2010, ils remportent aussi la Ligue des Champions.
Moi, je me rappelle d'une anecdote. Il y avait à l'époque au Milan AC les Van Basten, Ruud Gullit. Il y avait le trio hollandais et l'Inter, eux, ils avaient leur trio allemand avec de mémoire Matthäus, ouais, qui était le capitaine. Il y avait Bremer et je cherche à chaque fois. Et Rummenigge. Merci.
Donc voilà, en ce moment, ils sont pas mal, quoi. Ils totalisent donc 18 Scudetti, 6 Coupes d'Italie, 5 Super Coupes d'Italie.
En ce moment, ils sont pas mal. L'actualité ne te dit pas la même chose.
Je me suis demandé.
Exceptionnel.
Ouais.
Ce week-end, il y a eu un petit truc là.
Alors, je sais pas si Eto'o a demandé à Materazzi à l'entraînement de répéter le geste qui s'était pris par Zidane parce que
ça a été travaillé. Ça faisait vachement spontané.
Carrément. Voilà. Je sais pas si vous êtes.
Ce qui est remarquable à l'Inter de Milan, c'est quand même, ils ont été champions en 2007-2008. Et ils ont viré l'entraîneur, Mancini, alors qu'ils étaient champions d'Italie.
Ouais.
Et pour remettre effectivement le Special One, Mourinho, qui a fait mieux, parce qu'il a fait deux titres également, mais
Europe.
La Coppa.
Ouais. Bah, c'est tout, à part ce, voilà.
C'est très bien.
Le geste de ce week-end, est-ce qu'il vous a plu?
Eh bah, tu as peut-être empiété sur la rubrique coup de cœur, coup de gueule de pas mal d'entre nous, apparemment, avec ce coup de tête de Mister Eto'o.
Moi, j'ai un coup de gueule pour lui. Kevin, t'aurais pas aimé qu'il parle des Sin Baeva?
Brandon!
Pourquoi pas? Mais bon.
Bon.
Voilà.
Sexy quand même.
C'était nettement plus sexy. On va t'imposer d'ailleurs, au nom de la parité, que tu fasses un sportif et une sportive une semaine sur deux pour rajouter un peu de complexité.
Bonne idée!
Allez, on va enchaîner en musique.
Avec Infidels.
Targets out of sight. A rhythm queen dancing burlesque, selling white lies in a strobe light. I want you with your twisted hair and your lip-ring stare. like a 67. I'm affected, you're selected. I want you with your twisted hair and your lip-ring stare. I want you. I want you in your perspex skirt and your white fake fur.
Et ben voilà, je crois qu'il est largement temps de parler rugby. Je n'ai pas vu la rencontre du 15 de France une nouvelle fois pour cause de anniversaire. C'était l'anniversaire de ma petite sœur qui était très contente pour l'occasion. Son joueur favori, à savoir Imanol Arinordo, qui était capitaine. Et eh ben c'est fini parce qu'il retourne
sur l'échafaud.
Voilà. Après une brillante prestation à Nantes, une rentrée remarquée après Chabal, et ben il est exclu du groupe.
Ouais. On parle politiquement correct. Je pense que lui il est tombé les deux pieds dedans là, quand même. Hein. Ah. Parce que le match à Nantes, il se fait sortir sur une erreur de communication entre le staff tribune et le staff bord de terrain. Il est capitaine et là il sort du groupe et il dit rien. Donc le basque bondissant, rugissant, volant et tout ce que tu veux, il s'est quand même bien dégonflé, je pense, sur ce coup-là.
Dans l'équipe hier, il y avait une petite interview où le journaliste marquait, broyait entre parenthèses son petit noir qu'il touillait. J'ai trouvé ça plutôt bien écrit.
Tu parlais de Ouedraogo ?
Non, qui fait son
rentrée ? Ça pourrait être marrant, le face-à-face Ouedraogo, Arnaud Doki, prochain Montpellier-Biarritz.
Qui fait sa rentrée du coup dans le groupe ? Manu avait bondi la semaine dernière, et non, il n'a pas joué à Montpellier, par contre, il jouera...
Non, j'avais posé la question, c'est tout.
Pas bondi. Ouais.
Moi j'ai beaucoup aimé, dans les spécialistes, le commentaire du père Elissal, qui a dit... est-ce que ces gens-là se permettraient la même chose avec Mourinho ? Il y a un choix d'entraîneur et on ferme sa bouche, sinon on t'exclut. Voilà. Bah, c'est ça, comme ça que ça doit fonctionner en sélection.
Moi, je te demande du respect, s'il te plaît. Tu me parles pas comme ça.
Arinordo qui a rien dit, à l'inverse de Ouedraogo qui avait critiqué, qui disait « je ne comprends pas ». Arinordo qui, pour l'instant, il n'y a pas eu de phrase, il n'a pas complété, il n'a rien dit.
C'est normal, il n'a pas de légitimité, lui. Ouedraogo, il en a une.
Ouais. Il joue dans le club entraîné par Galtier.
Je savais pas qu'il y avait ça. Barbarians, au hasard.
Au hasard. Allez, on va. Je sais pas si vous avez regardé ce match.
Oui.
Gonzalo.
Oh, quel ennui. Je me suis ennuyé.
Moi, j'ai
hormis la première ligne. J'ai beaucoup aimé la première ligne. Je l'ai trouvée vraiment puissante et cohérente. J'ai beaucoup aimé Chabal. Les centres, ok. Trail, moi, me convient pas en 10. Et Payusson, je l'ai trouvé faible, je préfère pour Ikea.
Et c'est pas un modèle Afrique du Sud qu'on a reproduit, là?
On a reproduit, bah, je sais pas.
Un modèle fourreau, ouais. Des kilos.
Grenoble va remonter en première div, c'est ça?
Exactement, les éléphants de Grenoble.
Je pense qu'on a reproduit un modèle pour essayer de battre enfin l'Argentine aussi. Faut savoir que sur les 10 dernières confrontations, on a dû perdre 7 fois.
Donc ça veut dire que l'objectif de la tournée hivernale, c'est de battre l'Argentine, c'est pas de préparer la Coupe du Monde.
Bien dit.
Ah, je ne sais pas quel est l'objectif.
Ouais, j'espère qu'il n'écoute pas Thomas.
Les petits garçons là qui sont venus jouer derrière et à l'aile et qu'on va pas revoir en juin, c'est pareil, non?
Exactement. On verra, je sais pas. Après, je pense qu'il y a des gros.
Pas déplaire au Stade Toulousain peut-être aussi.
Je pense qu'il y a des grosses manques de couilles peut-être, ou des gros accords avec les clubs pour ne pas blesser certains joueurs qui sont surutilisés et essayer de faire tourner. Je pense qu'il y a, on peut le dire, des accords. Ouais.
Des joueurs surutilisés, tu veux dire que un paillasson, je sais plus comment il s'appelle à Brive là, il est plus utilisé ou moins utilisé qu'un Toulousain comme Médard?
Je sais pas, mais il joue pas des titres avec en H-Cup et tout ça. Donc après voilà, il joue autant.
Il fait pas
club.
Le bouclier. Ouais. Donc il a autant de matchs dans les cannes, voire plus.
Sauf que le poids des clubs, n'est pas le même pour tout le monde. Voilà.
Alors c'était bien l'ouverture ou pas? Parce que vous avez soulevé le sujet la semaine dernière. Comment Morgan Parra et compagnie là?
Non, Parra bien, mais Trail, moi je le vois pas en 10, c'est tout.
Ah, c'est ça qu'on veut entendre, parce que la semaine dernière vous avez développé le sujet, qui va être, qui va pas faire, qui va être. Donc on n'a pas vu ce créa là.
Non, bah,
non, il est pas dans le groupe. Il sera pas à la Coupe du Monde a priori, à moins qu'il y ait une hécatombe.
Oui, Morgan Parra, hein, c'est clair.
4 sur 4, 4 sur 5 au pied.
Bah.
Non, mais c'est Parra qui tape, c'est pas Trail, hein. Donc ça change rien.
Parra, 4 sur 4, ok.
Non, mais ça change rien. Mais Parra, c'est le meilleur neuf français. Il est là-dessus.
À ce poste-là, il n'y a pas de problème et il va faire que grandir et progresser.
Et il a une jambe d'avance sur tous les autres.
Rougerie, bien, pas bien?
Moi, on en a parlé en bien. Par rapport à sa reconversion au centre, en plus, il fait un bon match. Avec peu de jeu derrière.
Faut dire que, les Argentins n'ont pas envoyé grand-chose et nous non plus. Hein. Donc. Défensivement, il était nickel.
C'était annoncé. Ils avaient dit, on va faire un match pénible contre les pénibles. On va les prendre à leur jeu. Bah voilà.
Est-ce que ça suffira?
On n'a jamais été capable de le faire en Coupe du Monde et sur des matchs qui comptent. Donc c'est peut-être bien. Aussi, je vous rappelle quand même une demi-finale de Coupe du Monde en 2003 contre des pénibles d'anglais avec une flotte pas possible où on avait été incapable de jouer comme des pénibles, de lever des quilles, d'être rigoureux en défense, même sur des matchs de compétition qui comptent.
Moi, je pense que l'enseignement majeur, à part peut-être le fait qu'on ait une vraie richesse en première ligne, merci l'académie peut-être, je sais pas,
peut-être,
tu le diras.
Peut-être.
C'est quand même que pour la première fois, Chabal devient incontournable au poste de
C'est énorme.
Alors la statistique match, c'est que l'équipe de France a dû courir 585 mètres avec le ballon en main. Sur ces 185 mètres, si c'est beaucoup au rugby, il a fait 40% de ses mètres parcourus balle en main.
Ce qui et puis il enchaîne deux matchs en 8, ce qui n'était jamais arrivé en équipe de France, je crois.
Et il ne perd quasiment pas de ballon en contact, il ne fait plus de fautes. Ce qui était un peu son péché mignon, c'était un joueur qui était à la limite de la règle et il sait se contrôler maintenant.
Merci Berbiz.
Peut-être, sans doute.
Enfin, merci aussi Saint-André qui l'a placé là les années passées quand même.
Oui, enfin, qu'évoque Brandon, il n'est pas si vieux que ça. Mmh. Hein, c'était il y a un an encore, on parlait de ça. Entre-temps, il y a un an de travail avec Berbizier.
Alors moi, je n'ai pas compris, on m'évoquait le fait que Chabal, il avait été placé en numéro 8, c'est ça? Alors 8, en gros, c'est... je veux bien, Kevin, que tu m'éclaires, parce que je dois pas être le seul dans cette position.
Tu gouvernes le pack.
C'est le joueur qui est derrière la mêlée, qui est collé dans la mêlée, et par qui tous les ballons qui sont talonnés circulent.
Donc tous les ballons extraits, et c'est lui aussi qui fait une couverture défensive, c'est bien ça?
D'accord. Après, il peut avoir un rôle de couverture sur le jeu au pied, mais après, c'est aussi une question d'organisation. On peut mettre d'autres joueurs à ce poste-là.
Et c'est nouveau pour lui que de jouer à ce poste-là?
Non, il jouait déjà en club. Il jouait déjà en club, et on lui... donnait pas ces qualités-là, ou notamment Laporte, qu'il avait à l'époque replacé en deuxième ligne.
C'était pas un coach.
Il y a vraiment aussi. Hein.
Ouais, il a commencé comme ça, mais bon, la preuve qu'il ne se trompe pas.
Il
a mis
en deuxième ligne.
Mais preuve qu'il connaît quand même ses qualités et qu'il a. Voilà, il a quand même su le réutiliser.
Ah donc, il y a que les cons qui changent pas d'avis, c'est ton adage.
Je sais pas, si c'est un con pour ce coup-là, mais il essaye. C'est pas un poste où on est très riche.
Donc 15-9 là contre l'Argentine, et à venir c'est quoi?
À venir, un match contre l'Australie qui a gagné 14-32 contre l'Italie, donc match qui me paraît ouvert. Les mêmes Australiens qui ont compris une branlée contre des Anglais qui ont joué, pour le coup. Donc, il va falloir peut-être jouer.
En tout cas, c'est la même équipe qui est reconduite.
À l'exception, une exception près, deux exceptions près.
Ah, donc, Arin Ardoki qui sort voilà. Pour Widarogo.
Et pour Ical qui est remis à l'arrière.
À la place de
qui jouait 15
Palisson.
Autre résultat, l'Écosse qui surprend l'Afrique du Sud 21-17 et qu'on a donc ces faiblards de la semaine dernière compte tenu des blessures, l'Écosse.
Ouais, moi j'ai vu une mi-temps, il s'est rien passé. Voilà, c'était grosse défense, un peu de pick and go et Parks au pied. Voilà. Et les Sudaf en faisaient encore moins.
L'Angleterre gagne 26-13 contre les Samoa.
J'ai regardé une mi-temps. Pendant 30 minutes, l'Angleterre est vraiment malmenée. Et par la suite, ils prennent en fait les Samoans devant. Le pack le prend devant. Derrière, ils font pas grand-chose non plus. Pourtant, ils ont une charnière assez jeune. Floud, je sais plus qui en neuf. Ils ont deux centres intéressants avec AP qui se faufile. Et puis, ils ont un tank à côté, là. Mais pas grand-chose. Par contre... énorme manque de respect à Twickenham où la semaine passée le botteur c'était qui donc,
Australien
avait été sifflé et là ils ont chanté sur le AK Samoan, ce qui était vraiment déplacé.
Par contre c'est eux les caméléons finalement. Tu disais il faut s'adapter machin.
Ouais,
on a battu les Argentins à l'Argentine.
Ouais.
Bah écoute, eux ils ont envoyé du jeu contre l'Australie qui est une équipe joueuse et là ils ont verrouillé contre les Fidji qui n'ont pas de pack, entre guillemets.
Par contre, là, c'est plutôt surprenant. Les Irlandais qui ont pris une branlée à la maison contre la Nouvelle-Zélande 18-38.
J'ai vu une mi-temps.
Ça peut être surprenant. Oh, tu rigoles.
Non, c'est pas vrai, mais ça faisait bien tous les deux que vous l'ayez dit avant.
Tu rigoles, il n'y a rien de surprenant.
Non, c'est surprenant par rapport à la réputation de l'Irlande qui est jamais facile à manipuler, mais la Nouvelle-Zélande...
Ils ont fait quoi l'an dernier, les Irlandais, dans le tournoi ?
La Nouvelle-Zélande qui, comme
attention,
à chaque...
Attention ce que tu vas dire.
Non, mais l'an dernier, ils ont fait quoi, les Irlandais ?
Pas grand-chose.
Pas grand-chose,
pas grand-chose.
Rien. Et là, ils jouent la meilleure équipe du monde. Mais, qu'est-ce que ça a d'étonnant qu'ils prennent une branlée ?
Mais la Nouvelle-Zélande qui est comme à chaque fois à un an d'une Coupe du Monde au-dessus du lot. Par contre...
Moi, je mets une pièce. Hein. Ils vont le rester.
Mais je pense qu'ils vont rester parce que c'est chez eux. On gagnera pas contre eux comme on fait d'habitude en Coupe du Monde. Parce qu'il y a quand même l'histoire Bastaro qui traîne sur le carreau en plus.
Et il y a un petit détail, c'est que le coach a compris que pour gagner, il avait besoin d'un gros pack. Et ils ont remis le nez dans le travail. C'était des phases de jeu qui avaient été abandonnées dans le Tri-Nation, dans le Super 12, jeu spectacle, etc. Et ben là, les Néo-Zélandais, ils se sont remis au travail devant. Et devant, ça bosse dur.
T'as un chevelu qui dit non.
Je suis pas d'accord.
C'est ton boulot, hein, ça.
Ils ont toujours eu une mêlée qui était capable de déglinguer n'importe qui, aussi avec des piliers qui font 30 kilos de plus que tout le monde. Sauf qu'à un moment donné, je crois que c'est pas dans leur culture du jeu.
Fitzpatrick, c'était quoi? C'était pas la culture du jeu néo-zélandais, Fitzpatrick?
Ouais, c'était quand même un autre rugby aussi, où de toute façon ça commençait vraiment de devant. Ils ont les joueurs pour le faire. Après, c'est juste une question d'envie, peut-être de travail, mais aussi de culture, je pense. Plus c'est un travail mental et savoir qu'on peut tuer les autres là-dessus.
Et vous vous souviendrez de ma prédiction, Sonny Bill sera pas loin d'être l'un des meilleurs joueurs de la Coupe du Monde.
Ouais. Il sera.
Il sera, et il l'a été là déjà sur la tournée. Hein.
Allez, dernier résultat, Galles-Fidji, bah, match nul, 16 partout. Voilà. Je ne sais pas, pas d'image, pas
moi,
de
vue. J'ai regardé les Fidji, avec une semaine de plus, la compagnie d'autobus fidjienne, et ben ça joue mieux, en bossant ensemble une semaine. Ils sont énormément tankés, et là ils ont joué, le terrain était pour eux vachement plus favorable, parce qu'à Nantes c'était quand même une piscine. Et en fait, ils ont pas de temps pour bosser ces mecs-là, donc là ils ont bossé sur cette semaine. Je pense que la semaine prochaine, ils seront encore plus des chiants à jouer.
Alors, juste pour clore cette page rugby, les matchs du week-end Irlande-Argentine, entre équipes provenchardes et qu'ont perdu, qui sont toujours des équipes pénibles, donc vous attendez pas à des grandes envolées, à moins que, surprise, France-Australie, Galles-Nouvelle-Zélande, combien les Néo-Zélandais vont en passer, c'est la seule question à se poser, je pense.
Au différentiel ou au total ?
Au différentiel.
Plus 30,
voilà, à peu près. Hein. Écosse-Samoa et Angleterre, Afrique du Sud, alors là, attention, là il y a gros match, on connaît la rivalité entre ces deux pays aussi, entre ces deux nations de rugby.
Je mets une pièce sur les Anglais.
Je pense que les Anglais vont réussir la passe de 3 sur la tournée d'automne. Et moi, juste pour clore, je vais revenir sur le AC Rugby quand même, dans les vestiaires, c'était rigolo parce qu'à la fin du match, tous les joueurs étaient déçus. On vient d'enchaîner 5 victoires consécutives, ce qui n'est pas arrivé pour tous les joueurs dans le vestiaire. Ça nous est jamais arrivé en national. Et on était tous déçus parce qu'on n'a pas réussi à prendre ce fichu point de bonus. L'appétit vient en mangeant. Attention au réveil à Dreux ce week-end.
Et le mieux est l'ennemi du bien.
Je le pense.
Et Pierre qui roule.
Fais péter ta mousse.
Bois plein de mousse, ouais, souvent. On va enchaîner en musique avec un groupe de passage ce week, ce mercredi. Non, ce mardi à l'abordage.
Mercredi demain
à l'abordage club, c'est Phantom Buffalo. S'en suivra, comment il s'appelle déjà?
Ty Segall.
Voilà, vendredi soir. Vous verrez certainement le Café des Sports présent pour l'occasion, pour s'en jeter quelques-unes et écouter des notes graveleuses. Allez, on enchaîne en musique.
Pourquoi graveleuse? C'est spécialiste de la chanson.
Et ben voilà, c'était Phantom Buffalo enchaîné avec Ty Segall. Deux passages cette semaine à l'abordage. Voilà, n'hésitez pas à venir. Ça fait un mercredi soir, un vendredi sympa. On enchaîne avec vous, Sir Danielski, et la rubrique NBA. Allez, c'est parti.
Ouais, quelques résultats, des stats et des infos. Des résultats cette nuit qui sont tombés. La deuxième défaite hein, pour les New Orleans. New Orleans, on dit quoi alors? Parce que la semaine dernière, on m'a repris. Battu par les la plus petite équipe de la conférence. On parle bien sûr des Los Angeles Clippers, la deuxième équipe de LA, qui a donc battu 99-95 New Orleans. Atlanta-Boston, c'est Boston qui s'impose 99-76 à Atlanta. San Antonio qui enchaîne victoire sur victoire et qui ont battu une grosse équipe qui est en l'occurrence Orlando 106-97. Indiana qui s'impose face à Miami, les fameux Miami qui n'arrivent toujours pas à s'y retrouver. Pourtant, grosse statistique de Bosch, grosse statistique de LeBron, mais c'est Dwayne Wade qui n'y est pas depuis deux matchs. C'était 93-77, 16 points en plus dans les dents.
je suis content.
Moi aussi, mais je devrais pas. Golden State 89 et Denver 106. Denver qui explose Golden State à domicile. Et puis bah Phoenix hein, qui se refait la santé avec le retour de Steve Nash, notre ami canadien, ce formidable meneur de jeu à Houston, 123-116. Voilà pour les résultats de la nuit. Donc du coup dans les les catégories, les conférences à l'est, c'est Boston qui mène avec 10 victoires et 4 défaites et Orlando 9 victoires 4 défaites et à l'ouest 12 victoires et une seule défaite pour San Antonio qui sont stratosphériques depuis le début de la saison, qui domine les Lakers 12 victoires et 2 défaites et New Orleans, donc je l'ai dit, 11 victoires, 2 défaites, voilà. Avec des statistiques françaises impressionnantes individuellement. En l'occurrence, on va parler surtout de Tony Parker, voilà, qui malgré ses déboires conjugaux, hein, on est obligé d'en parler, ça fait la une de tous les médias nord-américains et même des chaînes cryptées en France, cumule quand même 19,5 points, 7,8 passes et 3,5 rebonds par match. De grosses statistiques de notre ami Tony Parker. D'ailleurs,
pour toi, c'est lui la clé des succès actuels de San Antonio ?
J'ai envie de dire qu'il y a quand même Tim Duncan qui est pour quelque chose, puisque Tim Duncan, en parlant de statistiques, a battu le record de points détenu par un joueur de la franchise qui était donc forcément qui précédemment
Robinson. David Robinson.
David Robinson, merci messieurs.
Bonjour à l'occasion monsieur Dave.
Bonjour mes amis du café.
L'amiral Robinson qui a été donc détrôné par Tim Duncan qui a battu le record de points de la franchise, bien
tu
sûr.
Tu me frustres, je voulais que tu parles de El Manu.
Ah oui, mais non, mais El Manu, on l'a évoqué.
Il est numéro 2, hein. Enfin, je rappelle, il n'est pas numéro 1 de la franchise en termes de points. C'est George Gervin qui est devant.
Pardon.
Qui avait un lâcher de ballon magnifique.
Et moi, je reviens sur El Manu, il m'a fait rêver. Il y avait dans les highlights une action avec balle qu'il se met dans le dos et
dunk
au milieu de la défense. Elle était fabuleuse. Un peu à l'ancienne au niveau du rythme, mais c'est trop beau. Quoi.
Pas vu, mais c'est vrai que c'est le meilleur. Ailier ou arrière, hein, on va dire ailier, étranger du champion NBA, à ne pas en douter. Tout ça pour vous dire que aussi au All-Star Game, hein, parce que là on va parler d'informations, ont été nominés trois joueurs français. Boris Diaw qui a mis son deuxième total de points depuis qu'il joue en NBA avec 34 points durant la semaine et une belle victoire de son équipe. Charlotte, voilà, qui a été nominée, ainsi que Joakim Noah et bien sûr Tony Parker. On espère Joakim Noah. Son premier All-Star cette saison. Joakim Noah qui justement est le deuxième rebondeur avec 13,3 prises par match, toujours derrière Kevin Love, joueur de Sacramento, avec 13,8 rebonds par match, lui.
J'espère qu'il va rester meilleur rebondeur toute l'année parce que tu commences à devenir très très bon sur la prononciation de son nom.
Moi, plutôt que le All-Star Game, j'espère que Joakim Noah jouera en équipe de France.
Un jour.
Ouais, bah ça pas. C'est le fameux débat qu'on a déjà évoqué par le passé. Affaire à suivre.
Je crois que la NBA va fermer en 2016 pendant un an, donc là il pourra peut-être.
Non, il parle d'un lockout dès la reprise de la prochaine saison, hein, de toute façon.
Ah, vous lockout, séchez le truc, les mecs. Tous les ans, ça, non
Non, le dernier, ça date d'il y a 6-7 ans.
Parlez pas de malheur, messieurs, parlez pas de malheur.
Heureusement. Maintenant, si ça tombe au moment des qualifs pour les JO, ça serait plutôt du bonheur pour l'équipe de France, je pense. Parce que les mecs, ne pouvant pas jouer ni se préparer avec leur club, pourraient vraiment porter le maillot tricolore.
Au score et donc au point, son leader comme la semaine dernière, Kevin Durant avec 28 points par match et Monta Ellis de Golden State avec 25,9. Ceux qui ne le savent pas, hein, Kevin Durant, champion du monde cet été avec l'équipe des USA et qui évolue dans l'équipe des Oklahoma Thunders. Au Alamein, toujours le grand et le génialissime Rajon Rondo avec 14,3 passes décisives par match qui domine Chris Paul, 10,5 passes décisives par match. Je vous parle de ces meneurs parce que vous vous rappelez, la semaine dernière, je vous ai parlé de Predrag Stojakovic qui justement jouait avec Chris Paul, qui était le plus gros salaire de l'équipe, et qui a été, figurez-vous, depuis transféré. Il a atterri à Toronto, la seule franchise maintenant restante au Canada, puisqu'avant on a connu aussi Vancouver qui avait une franchise NBA. Et bien Predrag Stojakovic a atterri à Toronto durant la semaine. Voilà qui est dit, voilà qui est fait. Et
la
puis,
franchise la plus européenne
oui, de NBA, on peut l'évoquer.
Bah, le général manager est italien.
Et puis deux trois petites infos en vrac. Bon, j'ai parlé des stats énormes de Tony Parker. On pourrait citer Ron Artest qui a marqué l'histoire de la NBA, un des bad boys de ces 10 dernières années, parce que joueur difficile à jouer, à manœuvrer, gros défenseur qui avait signé il y a 2 ans si je ne m'abuse aux Los Angeles Lakers et qui se verrait bien fin 2014 évoluer en NFL. Il aimerait beaucoup avoir la possibilité, ce joueur un peu fantasque et fou sur un terrain et capable d'amener une grosse pression défensive, à l'aube de sa saison 2014, il aura donc 35 ans, évolué un jour en NFL, qui on le rappelle est la ligue majeure aux États-Unis d'Amérique de football américain. Et puis je finirai par bien sûr le petit road movie autour de notre ami The Answer. Je parle bien sûr d'Alan Iverson qui évolue à Beşiktaş. Donc on en parlait mardi dernier, ça avait été repoussé sa première rencontre. Il jouait justement mardi dernier en Eurocoupe, mardi dernier au soir, et son équipe s'était inclinée face aux Hongrois, je ne sais plus
Versace.
Le nom. Merci beaucoup. De Versace, un gros score, 95 points, 95 à 93. Il avait mis quelque chose comme 15 points en 19 minutes. Il avait fait plutôt une bonne rentrée. Son équipe s'était inclinée. Et là, ça a été son premier match en championnat cette semaine, le week-end passé. Et là, par contre, ça a été le gros bide, puisque ça a été 2 points en 19 minutes de jeu, 2 ballons perdus. Et il a regardé les autres jouer, 1 sur 6 au shoot. Bref, c'était du grand n'importe quoi. On espère qu'il se reprendra.
Apparemment, il déclare que c'est compliqué de s'adapter à ces nouvelles règles, ce nouveau basket, ces nouvelles conditions pour lui, donc c'est ça?
Oui, et puis son intégration va être facilitée. Quand on voit à quelle distance il est de son groupe pendant les temps morts, ça va l'aider, je pense.
Ah oui, je n'ai pas vu ces images, mais du coup, affaire à suivre. Alan Iverson en Europe. Voilà qui est dit, voilà qui est fait.
Moi, je rebondis juste sur un truc. Faut qu'ils arrêtent d'avoir le melon, ces sportifs de haut niveau, à croire qu'ils peuvent passer d'un sport à l'autre. Là, le ronron Artest qui pense pouvoir jouer en NFL.
Je suis d'accord.
C'est Bogé, c'est ça, le cycliste sur piste français, ouais, Grégory Bogé, ouais. Qui va se lancer dans le sprint. Mais le sprint sur une piste, ouais. Il nous fait doucement rigoler. Et puis une Usain Bolt qui
Michel
Jourdan,
Michel Jourdan, donc, qui a pas fait ça aussi.
Ouais, j'avais parlé qu'il a évolué en Ligue 2 là-bas avec l'équipe B des Chicago White Sox à l'époque. Michael Jourdan qui a essayé malgré ses qualités sportives indéniables.
Et Bolt, il veut faire quoi là?
Du foot.
Foot. Ouais. Avignon peut-être. Hein, on en reparlera avec Dave.
Ouais, il y a la place.
On va clore. Avec des points, c'est plus intéressant.
On va clore cette page US en musique avec vous, l'ami Gonzalo.
Jill Scott et Ron.
Ever feel kinda down and out, you don't know just what to do. Living all of your days in darkness, let the sun shine through. Ever feel it somehow, somewhere you lost. Could you call on John Coltrane now, 'cause they're
Et ben voilà, après ce petit morceau.
Oh, mais arrête de dire ce petit morceau, c'est un grand
ouais,
morceau.
Ouais, j'allais le dire.
Que nous allons nous définissons comme mielleux ou funkeux selon certains gens sur le chat qui est possible sur principeactif.net sur la chronique de l'émission. Et pour ceux qui ne peuvent pas écouter ou qui voudraient faire réentendre cette émission, n'hésitez pas, il y a le podcast qui fonctionne toutes les semaines. Monsieur Raoul, comment est votre humeur cette semaine?
L'humeur est au pamphlet, à la critique sociale et politique tant qu'à faire. Vous nous demandiez si on avait vu du sport ce week-end. Il y avait un grand moment de sport à Évreux, il me semble. Il y avait les assises du sport. Non pas une éloge du sport assis, hein, qui a été si bien mis en valeur lors des championnats du monde d'escrime au Grand Palais. On va pas cracher sur nos amis qui pratiquent le handisport. Non, le sport assis. Pas non plus celui que vous pratiquez régulièrement, mon cher Gonzalo. En étant assis sur votre canapé avec une bière et à regarder des gars s'échiner sur un terrain.
Ouais, c'est gentil. Regarde du football, hein, je pense que c'est ça.
Oui, mais quand c'est la déprime complète. Tu sais, très tard le soir et sur les chaînes cryptées.
Mais le samedi...
Encore plus tard, le dimanche.
Aïe, pauvre Gonzalo.
Donc, les assises du sport. Des assises du sport qui mettaient en valeur les pratiques sportives sur l'agglomération hébroïcienne, les transformations des pratiques dans le milieu sportif en France, l'implication de l'État ou pas, etc. L'économie liée au sport. Alors, bien entendu... Il y avait une caution scientifique, un chercheur de l'université de Rouen qui nous expliquait d'un point de vue sociologique comment se passaient les choses. J'ai bien dit caution parce qu'en fin de compte, la démarche était peut-être pas très intéressante. On pourrait déjà se pencher sur le contexte local. Ces assises du sport, c'est toujours un grand moment pour opposer différentes vues du sport au point de vue local et au point de vue national. Pour faire plaisir à notre ami Gonzalo, on pourrait parler de Coubertin, on pourrait le mettre en opposition avec le Laporte. Voilà, deux visions différentes. Ou alors, plus simplement, on pourrait parler de l'opposition entre un Lagardère et un Lahaye. Alors, le Lagardère ne viendra pas à nous, on le sait. Le Lahaye, il est déjà là, bien là, dans la place, bien installé, assis lui aussi. Beaucoup moins sexy que son homonyme, hein, on est bien d'accord. Celle qui nous a fait rêver lorsque nous étions jeunes.
Ouais, t'es pas né.
T'étais pas né.
C'est peut-être
comme ça que t'as été conçu. Hein.
On revient toujours au sopalin et au verre de whisky.
Oh, j'y étais trop pas. Comme quand on peut avoir sport et finesse font bon ménage.
Finesse, oui. Bon. En attendant, sur le personnage qui nous occupe, la finesse, elle est un peu absente. Voilà. Alors, par contre, ce monsieur est très fin sur différentes pratiques sportives. Alors, on l'a connu athlète, coureur de demi-fond.
Hein, là, émérite.
Donc là, plutôt des gabarits fins, justement, une foulée souple, dynamique, et quelqu'un qui travaille à long terme, hein, puisque ce sont des courses de durée qu'il pratiquait. Maintenant, on aurait plutôt tendance à le voir dans le sport hippique, genre jockey. Pas pour la taille là encore, hein, plutôt pour le retournement de casaque. Parce que là, il a entamé une nouvelle course, pas la course à l'échalote, pas la course en sac, mais la course aux voix. C'est-à-dire que je suis là, je prends des décisions, je fais partie d'une équipe, mais ah oui, il vient d'un sport individuel, c'est vrai. Mais de cette équipe, je me désolidarise et je fais la course aux voix, bien sûr. Et donc, comment régner? En divisant, bien sûr. Donc, actuellement, la politique sportive sur Évreux, c'est opposer les différents clubs, les mettre les uns contre les autres, en poussant les gens à reprocher leur malheur aux voisins. Voilà comment les assises du sport sont conçues à Évreux. Voilà comment le sport évreuxien fonctionne à Évreux. On n'est pas sorti de l'auberge. Ouais, vas-y.
Moi, je vais quand même rebondir parce que j'ai pas eu du tout les mêmes échos ou j'ai eu les échos d'un combat de boxe plutôt entre deux personnes en place.
Mais d'ailleurs, il y a des catégories. Normalement, ils tirent pas dans la même.
Ouais, bah ouais, mais bon. Si au royaume des focus, je pense qu'ils peuvent tirer dans la même catégorie. Mais on m'a pas parlé de cette de cette rivalité qui a été mise au profit des petits clubs ou de certains clubs qui ont été abandonnés et rejeter la faute vers ceux qui ont été plus soutenus ou au moins soutenus à ce qui avait été écrit il y a quelques années, au moins. On m'a parlé d'échanges qui avaient été un peu mieux qu'aux premières assises du sport où on était plutôt arrivé club à une réunion d'information pour nous dire comment on allait mieux nous enculer à partir de maintenant.
Encore une histoire de fondement. Des assises qui resteront dans les annales.
Voilà,
c'est ça que
tout à fait. Et à partir où, par contre, la fréquentation a été nettement moindre parce que les clubs ont eu marre d'être pris pour des jambons. Et pour le coup, ils ont été ben ils ont, il y a peut-être autre chose à faire que passer des journées assis à écouter des gens qui vont nous dire comment faut faire à partir de maintenant, eux qui n'ont jamais rien fait, pour certains dans le milieu du sport.
Sans te faire perdre le fil de ce que tu vas dire, il est clair que ces assises d'il y a 2 ans maintenant, je crois, annonçaient une politique sportive de la ville qui n'a absolument pas été respectée, des critères qui n'ont pas été respectés, qui ont été bafoués par les gens qui nous les avaient présentés et installés. Et c'est en cela que ça a opposé les différentes associations qui se sont tournées ou pas vers une politique de développement qui était censée leur permettre de faire fructifier leurs efforts et qui se sont retrouvés, comme tu le disais, avec un beau tube de vaseline fourni gratuitement.
Et après, c'est poète.
Non, mais après, c'est facile du coup de faire porter le chapeau à quelques clubs qui, pour le coup, arrivent à s'en sortir mieux que d'autres. C'est un arbre qui peut cacher tout ce qui n'a pas été géré. Donc voilà, à bon entendeur, vive le sport.
Brigitte, quand je te tiens.
Donc pour conclure sur ce sujet, l'opposition donc Lagardère La Haye, c'est ça. C'est tout simplement ériger les uns contre les autres, le haut niveau contre la masse. On avait déjà abordé ce sujet-là, tout en masquant la réalité. À savoir des investissements très lourds faits sur un équipement qui ne pourra pas permettre de disputer des compétitions d'un certain niveau. Quand je dis très lourd, c'est très 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 lourd, mais ce problème s'étend aussi au niveau de l'État. L'État veut briller et interfère dans les affaires sportives. On a vu un joli petit footballeur être reçu avant sa retraite par un chef de l'État après une débâcle notable, et l'État maintenant ne consacre que 0,7% de son budget au sport et a baissé cette manne financière cette année de plus de 30 millions. Voilà. Par contre, en contrepartie, pour continuer l'hypocrisie, il y avait un secrétaire d'État au sport qui était sous tutelle du ministère de la Santé, etc., blablabla, et maintenant on se retrouve avec un vrai ministère des Sports, dévolu à une seule femme, notre voisine vernonnaise.
Je crois qu'actuellement, il y a un projet débattu au Sénat pour que les collectivités territoriales ne subventionnent plus les associations sportives.
Je pense que c'est bien plus qu'un projet, c'est une loi qui existe depuis 3 ans, qui doit être mise en application.
On est un des rares pays en Europe à fonctionner comme ça. Quand on connaît la dette publique de l'État, il est logique et légitime qu'on y arrive. Seul problème, c'est qu'à côté de ça, il n'y a pas grand-chose qui est fait pour aider le sport en France. Or que les pays européens ont une politique sportive à côté de ça, mais ils ne financent pas directement les associations.
Tout est question de logique. Si tu restes dans une logique de sport d'État et que tu imposes des cadres qualifiés, formés par l'État, etc., il n'y a pas de problème. Si tu te désengages financièrement, mais que tu imposes encore des contraintes supplémentaires, le sport meurt, tout simplement.
Eh ben, on va laisser le sport mourir en musique avec vous, Gonzalo, et tâchez de lâcher Brigitte là, et s'il vous plaît, c'est une demande. Well, all right. On drums, set the blinds out. Baby ride man, don't you let my baby ride man, don't you let my baby ride man, don't you let my baby ride. Fine,
baby ride, man. Don't you let my baby ride, man. Don't you let my baby ride, man. Don't you let my baby ride.
C'est mieux.
Eh ben allez, c'était RL Burnside avec le titre Let My Baby Ride. Merci wow. pour cette sélection bluesy.
Superbe accent.
Il est de retour.
Je suis content.
Et,
ouais, je suis content.
Ouais. Et maintenant ping-pong.
Non, c'est un sport de ballon, handball. On n'en parle pas beaucoup de handball d'ailleurs ici, non,
on a parlé de l'USMV.
J'en ai regardé à la télé. Un petit écran carrément.
On a parlé de l'USMV vidéo, il y en a plus. Et de Saint-Sébastien Sport qui a gagné contre le même SMV, mais l'équipe peut réserve. Ah, mais on va parler football maintenant avec vous.
On peut parler de la Ligue des Champions de handball si tu veux, les clubs français brillent aussi. Hein.
Ouais, grave. J'ai regardé, c'était sympa.
Malheureusement, on n'a plus le temps, donc on va être obligé de parler de la balle au pied. Si ça vous embête pas.
Avec grand plaisir.
En plus, j'ai prévu un espèce de petit thème récurrent, là. J'ai 3, 4, 5 sujets à évoquer. À chaque fois, il y a un thème récurrent. Donc, vous allez, en fait, essayer de deviner. En fait, le thème récurrent, c'est le vieux.
Si je puis me permettre, récurrent, ça veut dire que ça revient toutes les semaines, non?
Ah, je ne vois pas
c'est
du tout.
Carton, ça, c'est normal, c'est mérité.
Je croyais que t'allais faire le running gag de la chronique de Bernardo.
Bah, je vous ai quand même prévu des devinettes. Hein. Je vais essayer de faire abstraction des commentaires annexes. Je vous ai prévu des devinettes. Donc il y a un thème récurrent, c'est le vieux, donc le sportif, le footballeur plutôt, puisqu'on va parler de ça malheureusement pour certains.
Maldini,
Robert Pires.
Et donc à chaque fois, donc, vous allez essayer de il y aura donc un vieux qui sera concerné. Vous devrez donc essayer de deviner quelle sera cette personne. Donc on va commencer avec la Ligue 1. Donc là, il y en a pas pour le moment. Il y a deux petits apartés que je voulais faire. Donc le premier, il y en a pas. Donc cherchez pas. Je voulais juste remercier le Racing Club de Lens d'avoir un peu ouvert les vannes lors du match contre Lyon dimanche dernier en deuxième mi-temps. C'est vrai que depuis le début de la saison, on voit une Ligue 1 assez fermée. Et pour une fois, et contrairement à d'autres pays, par exemple comme l'Espagne où les équipes ont régulièrement peur de leurs adversaires, mais laissent quand même les attaques comme Barcelone rentrer comme dans du beurre. Ben là, on a vu Lens, qui était capable justement de laisser jouer les gros et donc de leur permettre de marquer des buts et de prendre confiance. Donc merci au Racing Club de Lens, comme Arles Avignon d'ailleurs, mais bon, je sais pas si vous en avez parlé pendant mon absence.
Ah, absolument.
Bah non, on permettrait pas. En plus, je dis, il commence à marquer des points, alors ça va pas du tout.
Ouais, bon, je sais, j'étais très déçu aussi. D'ailleurs, j'ai eu besoin de 3 semaines pour m'en remettre et ça y est, je suis là.
C'est bon. Il est très fort.
Bon, et sinon, donc, il y a un joueur qui a marqué un très beau but ce week-end en Ligue 1 lors d'un fameux derby et qui donc est assez âgé lui aussi, qui est donc le, si je dis pas de bêtises, le joueur de champ le plus âgé de la Ligue 1 et il a marqué. Ah bah, il y a aucune culture là dans.
Il y a eu des buts en Ligue 1.
C'était en Bretagne, forcément.
Un joueur qui, alors je vous donne quelques indices. Il a commencé en 96. Il a joué 376 matchs de Ligue 1, 40 buts marqués. Il a été faire une petite pige en Israël. Là, c'est pour Damienski. Il a passé par le Paris Saint-Germain, l'Olympique de Marseille, Guingamp, Lens, le Béjiktaş, donc Sochaux, et là il est depuis 4 ans dans un
club. Kamel Meriem.
Kamel Meriem, 40 buts en Ligue 1, tu mets.
Non, j'y suis pas.
Non, il est reconnaissable pourtant à sa longue touffe. C'est Jérôme Leroy.
Leroy, j'allais dire à faire
bah,
sa
longue touffe. Bah, ouais, Jérôme Leroy,
il est en train de raser. Bien sûr, bien sûr. Faut quand même pas que je vous donne tous les indices non plus.
Ouais, donc moi j'avais le derby breton quand même. Hein.
Ouais,
j'avais.
Bon, donc Jérôme Leroy qui a marqué ce week-end, donc comme quoi.
Moi j'aime bien ce joueur.
Ouais, mais complètement. Moi aussi. Comme quoi à 36 ans, bah on n'est pas cramé, comme quoi les footballeurs qui
il
sont.
Il a 36 ans déjà.
Il a 36 ans.
Et son alter ego de l'attaque rennaise de l'année dernière,
Michael Pagis.
Il est encore en activité.
Non, il a arrêté.
Malheureusement.
C'est bien dommage parce que ça c'était un vrai artiste.
Moi aussi. Précis.
Donc comme quoi on peut avoir quelques années de trop par rapport aux critères français et on peut continuer à jouer parce qu'à l'étranger, donc justement ça les dérange pas. Donc,
Robert Pires.
Voilà, comme vous l'avez deviné, il y a Aston Villa, il y a Robert Pires, 37 ans. Donc un point pour monsieur Raoul.
Et Raoul ?
Raoul.
Raoul.
J'allais tripler.
Raoul.
Bon là ça fait un demi-point parce que tu l'as pas dit au bon moment.
Il y a pas eu la question. Arrive après.
Donc ouais.
Quoi, il va en planter 3 contre Lyon, c'est ça ?
Ah bah s'il continue sur sa lancée, pourquoi pas, mais il a mis les trois buts, il a mis les trois buts du droit, du pied droit, hein, si je dis pas de bêtises, avec Schalke, hein, j'ai pu voir les ralentis, donc il est gaucher, il a mis un triplé du droit, donc j'espère qu'il va pas et on va lui demander de jouer que de la tête contre Lyon, donc peut-être que ça va pouvoir leur faire du bien. Donc ouais, on termine Jérôme Leroy donc en Ligue 1, donc en Angleterre, donc Robert Pires qui refoule les terrains, donc 37 ans avec Aston Villa, donc pareil, là-bas, ça les embête pas de faire jouer les vieux.
Et Oulier qui essaye d'être un pâle copieur de Wenger, il essaye de faire venir des Français à Aston Villa en se disant que ça va lui permettre de s'installer.
Sauf qu'à au contraire de Wenger, il les ramène, ils ont 35 ans.
Wenger, ils ont 16.
Calcio, alors Calcio, il y a...
Un vieux aussi.
Donc je voulais juste quand même commencer en parlant du très beau but de Zlatan Ibrahimovic qu'on a vu... cette espèce de, vous avez pas vu le, Gonzalo, toi qui regarde tous les matchs.
Ouais, de kung fu.
Ouais, un espèce de kung fu arrière.
Il était
décroisé.
Privé de Canal Football Club et de, alors, il semblerait, téléfoot, Dave, alors, non.
Il semblerait que il a fait très longtemps, il en fait encore du taekwondo, notre ami Zlatan, et que ça lui apporterait dans son football.
Ouais, d'ailleurs, il dans a la sur des joueurs adverses, il y a un super beau reportage en l'équipe.
Dans l'équipe magazine,
ouais. Sur lui, on va dire de son enfance jusqu'à maintenant.
Ils ont été chercher ses coachs depuis qu'il est tout petit et ils ont parlé
etc. Et ça a l'air d'être vraiment un mec complexe et très riche à rencontrer.
Voilà. Donc pour continuer sur ce club, le Milan AC, donc il y a même trois joueurs assez anciens dont vas-y Damien, ce qui va tenter
ça tient. Pipo
Inzaghi,
donc voilà. On en parle plus.
Ah si.
Sa carrière est terminée.
Moi je veux tirer un grand coup de chapeau justement.
Il y a 10 jours, t'as vu qu'à venir la semaine dernière.
Je veux tirer un grand coup de chapeau.
C'est quoi ce scandale? J'ai du mal à dire en italien, mais quel formidable joueur.
C'est impressionnant. Le mec, il a 37 ans. Il est quand même pas très bien gaulé physiquement.
Le roublard par excellence.
Il sait rien faire sauf marquer des buts en fait.
Et ce qui est incroyable, c'est que les mecs vraiment dans ces pays-là, ils adorent le football. Le club va lui permettre à 37 ans de passer son temps, donc quasiment une petite année à se rééduquer, à revenir jouer après, parce qu'il veut rejouer après.
Et un truc qui est quand même à noter, c'est que dès qu'il y a la chronique foot, c'est le bordel.
J'aime bien amener ce côté
bordel.
Non, moi
je trouve pas ça normal. Monsieur se permet de prendre des vacances, etc. Et il arrive, il nous parle d'un truc qui est réchauffé il y a 10 jours là.
Bon, en et plus, Clarence Seedorf,
ouais, 34 ans, qui est remplacé donc par.
C'est pareil, on a l'impression qu'il joue depuis 40 ans.
Ah, mais Clarence Seedorf, pour moi, c'est la référence.
Tu parles de Inzaghi, il a fait combien d'années au Milan?
Il a fait une bonne vingtaine.
70 buts, je crois, avec. 66 buts avec l'AC Milan sur les coupes d'Europe.
Sur la Ligue,
il y avait une très bonne interview.
Il est devant Raoul.
Il y avait une très bonne interview sur Raoul et qui disait j'ai pas encore rattrapé Pipo Inzaghi.
Ouais, il a un but de retard.
Je crois qu'ils sont à égalité. Ouais, il me semble qu'ils sont à égalité.
Il va le battre.
Il a fini sa carrière de toute façon parce qu'il reviendra pas.
Ah, je sais pas. Je suis pas sûr.
Il a 36 piges. C'est quoi, c'est une rupture décroisée?
Ouais. Faut se méfier de ces petites bêtes là, Eric.
Il n'est pas possible. Même dans le laboratoire de Milan, ça lui prendra bien un an.
Ah, mais bon. 38 ans, il y en a un, Paolo Maldini, qui a joué jusqu'à 40 ans en Ligue des Champions. Donc. Et donc un autre semi-retraité, qui a remplacé Clarence Seedorf à quelques minutes de la fin, donc, dimanche dernier. Alors lui, c'est un peu tiré par les cheveux, mais donc c'est effectivement, un trentenaire maintenant.
Ronaldinho?
Flamini? Voilà, Ronaldinho, il a 30 ans, donc il est considéré comme un vieux.
Fernandez, il s'est lâché, hein. Avant la Ligue des Champions, là, il a dit de toute façon, Milan joue mieux
sans Rony. Bon, c'est pas le seul à le dire en même temps.
Non, mais il y a pas dire beaucoup qui le disent avant de le jouer, etc. Quoi.
Oh, bah, si tout le monde le dit.
Avant de le jouer publiquement.
Ou toi, tu l'as dit, ouais, mais bon, ça arrive pas jusqu'en Italie.
Bon, donc on va donner deux points à Gonzalo.
C'est
le spécialiste S vieux.
Exactement.
Non, bah ça fait un point, Damien.
Oui, ta mission la semaine prochaine, nous parler de Jérôme Aladière.
J'avais quand même rapporté quelques stats sur Raoul, mais bon, on a passé tellement vite dessus, vous avez tellement triché que je voulais vous faire une petite devinette. Bon, c'est à la fourchette. J'ai son nombre de matchs et nombre de buts inscrits en championnat espagnol. Alors c'est quand même assez impressionnant.
Nombre de matchs.
C'est le meilleur 234. Buteur de l'histoire. C'est le meilleur buteur de l'histoire.
330 matchs.
C'est le meilleur buteur de l'histoire.
J'ai parlé des buts, moi.
785.
Combien de buts?
234 buts.
200. Ah bah tu l'as regardé avant, non? C'est 229.
Allez. Non, mais il a lu l'interview.
C'est combien de matchs?
Franchement, pour une fois,
c'est 229 buts et c'est 549 matchs.
Waouh! Mais
et là, j'ai pas un point?
Di Stefano, il est pas devant?
Non, justement.
Pour ton mauvais esprit,
il a pas assez dit Stefano.
T'as eu moins 2 pour ton mauvais esprit depuis le début, donc tu reviens
fait. C'est bon ça. Ça c'est bon ça.
Je valide. Prof,
c'est bon ça.
Dans le fond,
tu reviens péniblement dans les chiffres.
T'es à moins 1.
T'es aussi nain de la température dehors, toi.
Et dans le fondement.
Et il y a aussi les chiffres en Ligue des Champions qui sont absolument ahurissants.
Bah, toujours pour Raoul. 76 buts.
64 buts.
Ouais. 64.
T'as maintenant 2 avec Schalke, donc 66 buts.
180 matchs.
Et 125 plus 4, donc 129 matchs. C'est incroyable quand même. 129 matchs de Ligue des Champions.
Et l'interview était super drôle parce que là, tu parles de stats, etc. Lui dit non, mais c'est pas pour ça que je joue. J'avais un projet de vie, machin. Je voulais rejouer, patati patata. Et à chaque fois qu'une question est posée, il fait référence à ses statistiques au record qu'il peut dépasser. Donc, une fois de plus, c'est quelqu'un qui est pas très franc du collier.
Mais un buteur, ça pense qu'à ça.
Ah bah, ouais, je pense. Heureusement.
Pipo Inzaghi s'en cache pas. Il dit je dors en.
Plus qu'un
en
buteur, je me permettrais de. C'est un génie quand même dans le milieu du foot. Voilà.
Bon, et juste donc une dernière devinette. Là, c'est sur pour revenir. Là, c'est pas trop éculé.
Faut que je m'en refasse.
Ouais, voilà, Damien. C'est le buzzer, les gars.
Allez, mec.
Donc, sur l'équipe de France,
tu
donc,
peux
là,
nous la faire comme
c'est pas trop éculé. Je crois que le match avait pas encore eu lieu mardi
comme
dernier.
Comme une question pour un champion. Tu sais, faut que tu la déclames.
Ah, je vais m'entraîner pour la semaine
prochaine. Foot là. T'as vu, il commence. Oh, is éculé.
Là, on peut lui rajouter un demi-point.
Ouais, attendez. Bah, on va arrêter le débat deux secondes. Là, on parle parce que systématiquement, en fait, là, il y a une espèce de relent, tu sais, du public footballistique, généralement, qui est pas très agréable concernant ses adversaires. Gonzalo l'a très objectivement énoncé quand même à Twickenham la semaine dernière, comme ça a été le cas il y a 15 jours. En Angleterre, au rugby, ça n'a pas été très fair play non plus. Dans le
rugby
stade.
Se footballise. On l'a dit depuis.
Ouais, voilà. C'est pas bon. C'est pas bon pour eux. Voilà. C'est dit, c'est validé.
Bon, pour revenir à nos quiz du jour.
Donc, équipe de France.
Équipe de France. Donc, est-ce que vous savez qui était le joueur le plus vieux aligné sur le terrain contre l'Angleterre? Voilà, il y a grand silence dans le studio.
Ah, c'est sec.
C'est Mexès?
Non.
Evra. Il jouait pas.
Moins 8.
Ah, mais c'était un latéral.
Moins 8.
C'était un latéral. Ah.
Aïna qui a quand même une grosse
carrière.
C'était un latéral.
Réveillère?
Non, il a pas joué.
Non,
pas
si,
il y en a un seul qui avait plus de 30 ans.
Bah, dis-le,
c'est pas Malouda qui a. Donc, pardon, Malouda a 30 ans pile aussi, ouais, depuis le mois de juin. Et c'est donc il y en a un qui avait 31 ans. C'est un gars qui revient, il joue dans un très très grand club du football. Il joue peut-être avec le meilleur joueur de.
Diarra?
Julie?
Non, mais non, c'est Abidal.
Voilà, Eric Abidal. Eric Abidal, 31 ans.
Et il passe à zéro.
Qui était le joueur le plus ancien. Comme quoi, l'équipe de France de Laurent Blanc est finalement assez rajeunie. Parce que je regardais, il n'y en a pas un seul qui avait plus de 26-27 ans.
Alors, on parlait de rugby tout à l'heure en off. On disait que Livremont s'appuyait sur la génération des champions du monde moins de 21.
Damien Ski vient de s'écrouler derrière toi, fais gaffe, parce que là, il est trop déçu.
Il a perdu le chute. Je suis pas bien.
Blanc fait pareil sur une génération de footballeurs, là. Bon, même si Menez a un peu dégagé entre temps, mais c'est.
Il l'a rappelé, pourtant, il lui envoie des SMS via télévision interposée.
Oui, on a entendu parler de ça, ouais, après son but de ce
week-end. Assez subtil, en plus, hein, personne, je crois que c'était à lire entre les lignes. Je veux jouer, je veux jouer.
Mais voilà, c'est pareil, il y a une logique de génération, quoi, je crois.
Ouais. Bon, et
pour, allez,
dernier module, on va passer à la Ligue des Champions. Donc on a Auxerre Milan AC ce soir, ouais, c'est ça, ce soir. Donc
ils sont libérés, ils vont gagner.
Voilà, ils sont libérés, ils vont gagner là, il faut
qu'ils
absolument battre Milan.
Berlusconi à l'envers, ça serait trop beau.
Voilà, donc
dans les fondements, c'est ça.
On a
demain
soir, donc on a Schalke Lyon là pareil
par devant comme par derrière.
Voilà, Lyon a pas grand-chose à faire pour pouvoir passer le tour. Et donc on a Spartak contre Olympique de Marseille ce soir. Et donc là, pareil, pour terminer sur le thème du jour, devinez quel âge a le joueur le plus âgé du Spartak Moscou de l'effectif, hormis le quatrième gardien que j'ai éliminé parce que sinon il nous allongeait, il me gâchait mon quiz.
28 ans, voilà, donc 23 ou 24, moi je dis pas plus.
Quel est le joueur le plus âgé de l'effectif entier, pas des joueurs qui sont alignés, de l'effectif de 35 joueurs, hormis le quatrième gardien.
23 ou 24 ans, pas plus.
Et c'est un point pour. Bon, il y en a deux qui jouent pas, ils aiment pas le football, je crois, mais c'est Damien.
C'est Damien qui a enfin fait la cerise. Voilà. J'aime pas répondre au hasard.
C'est normal comme
combien c'est quel âge?
Le joueur le plus vieux de l'effectif du Spartak a 27 ans.
Attends, il dit c'est quel âge?
Pile poil. Je peux te dire son âge et où est-ce qu'il est né, il est né.
C'est Albert Banning. Non, c'est pas Albert Banning, malheureusement pour Damien. C'est son joueur préféré, au cas où les auditeurs le sauraient pas.
Non, c'est le seul qui connaît.
Eh ben allez, on va clore cette page foot. On te redonnera plus de temps la semaine prochaine parce qu'il est déjà l'heure de fermer. Vous pourrez voir, c'est quand c'est samedi soir du volleyball avec la rébellion des joueuses de l'EVB. Nous le souhaitons. C'est à 18h15 au gymnase du Canada. Il y a pas de basket à domicile, il y a pas de rugby à domicile, peut-être du football avec le FC
Football Paris FC 2.
Voilà,
18h en direct sur l'antenne de Principatif.
Ah, bah et aller au show voir Calais, ça sera quand même nettement mieux.
Et Jason Boutoil du volleyball c'est ce week-end au gymnase du Canada.
Voilà, et puis
quelle heure? 18h.
Et ça vous empêche pas de venir avec votre Walkman pour écouter le match en direct et voir le match.
Faites attention
le même, en direct.
Si vous allez voir le football, il faudra retenir le commentateur du match sur Principatif parce qu'il y aura deux ou trois anciens passés dans l'équipe du Paris FC en face, donc s'il descend à toute allure dans les tribunes pour aller arracher les crampons d'un joueur adverse,
c'est possible, on le retient pas.
Et puis bah voilà, c'est à peu près tout pour le sport en local. Éventuellement pour ceux qui aiment l'automobile, il y a plaines et vallées, mais si on le dira quand même, allez.
Ils vont crotter les routes déjà avant le tour d'honneur.
Et puis, c'est un très beau moment, Sports et Vallées.
Sports et Vallées. Allez, au revoir messieurs. On clôt le Café des Sports là-dessus. À la semaine prochaine. Et nouvelle, il ne pleut toujours pas.
Mais moi j'ai un coup de gueule. Hein. Chier le foot, ça empêche de faire les trucs à la fin.
Allez,
parti. T'as perdu le quiz, ça y est, il est mauvais.
Allez, c'est parti, au revoir.
Salut.
Bah moi c'était Cholet qui me fait
Les massues, il faut pacifier, elles pèsent pas moins de 500 grammes chacune. Et but ! Troisième but d'Emmanuel Petit qui marque à la dernière minute.
Oh là là, oh là là, chute de Mélanqui, chute de Mélanqui, juste devant un champ, garçon qui est parti dans le cœur.
Ça y est, Chapot qui est parti, l'Express, le CGB est parti, Chapot, 9,58, record du monde.
Pédalage et défonçage sans les mamelles du Tour de France, alors il se défonce car la ligne est encore loin.